بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. شفاعه الإسلام. La semaine dernière, on avait commencé l'histoire de Moussa alayhi salam dans la sourate An-Nazi'at. On avait vu les versets 15, 16, 17, 18 et 19. À travers ces versets, on avait rappelé que l'histoire de Moussa alayhi salam est une histoire la plus racontée du Coran parce qu'elle est remplie de hikmah, de leçons de sagesse, de leçons d'espoir, de conviction en Allah Azza wa Jal. Et c'était là un encouragement pour notre prophète alayhi salatu wa salam et également un encouragement pour l'ensemble des croyants pour qu'ils réalisent qu'une situation peut paraître extrêmement complexe, une situation peut paraître fermée aux yeux des hommes, mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé d'envoyer son aide, l'aide d'Allah Azza wa Jal, elle se réalisera, à condition de s'accrocher aux ordres d'Allah et de ne jamais perdre confiance en lui. Et la réaction exemplaire de Moussa alayhi salam était un modèle pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout et aussi un modèle pour l'ensemble des croyants. Moussa alayhi salam, qui a grandi dans un contexte extrêmement hostile avec un tyran du nom de Pharaon qui avait mis à mort tous les petits garçons, et Pharaon qui à un moment donné a dû revenir sur sa décision et laisser ses bébés de sexe masculin vivre une année sur deux, une naissance sur deux, une année sur deux était tolérée, et que Moussa alayhi salam se retrouve avec un concours de circonstances extraordinaires au château de Pharaon, c'est-à-dire un contexte très difficile, et que Moussa alayhi salam, à un moment donné, il se retrouve avec un meurtre sur le dos, il doit quitter l'Égypte, il doit fuir, et Allah Rabbul Izza demande à Moussa de revenir en Égypte pour inviter pas la cour de Pharaon ou quelques généraux, non, d'aller voir Pharaon en personne. Idhab ila Pharaon. C'est pas qu'Allah Azza wa Jal lui avait demandé d'approcher d'abord des ministres ou alors certains responsables parmi les Coptes, puis peu à peu monter jusqu'à Pharaon. Non, directement, le message était adressé à celui qui coordonnait cette injustice, le volm, et à celui qui donc imposait aux gens le shirk, celui qui imposait l'adoration de sa propre personne. Et Moussa alayhi salam était redevable Pharaon parce qu'il avait grandi dans son palais et qu'il a dû fuir, comme on l'avait expliqué, par rapport au meurtre du Copte. Donc une situation qui paraît compliquée, fermée, avec le tyran Pharaon, certainement un des plus puissants que l'histoire des civilisations n'ait jamais connu, un homme extrêmement riche, un homme qui est craint de tout le monde, une armée, selon certains savants, si je ne me trompe pas, c'est Ibn Kathir, rahimahullah, qui relate un nombre extraordinaire d'1 million de combattants lorsqu'il a rappelé les réservistes pour chasser Moussa alayhi salam jusqu'à la mer, des sorciers, 70 sorciers sur Ibn Kathir, rahimahullah, et des sorciers extrêmement, on va dire, habiles, expérimentés, des personnes qui maîtrisent de manière parfaite le sihr, la sorcellerie, c'est-à-dire autant de facteurs qui vont contre, à l'encontre de notre prophète Moussa alayhi salam, et qu'en finalité, Allah Azza wa Jal lui accorde l'ouverture. Et le point culminant, c'est lorsque Moussa alayhi salam est près de la mer, et qu'on finit par se dire que c'est une situation qui est impossible, où il n'y a aucune issue humainement possible, et qu'Allah Azza wa Jal demande à la mer de s'ouvrir en ordonnant à Moussa alayhi salam de frapper avec son bâton. Et c'est là une leçon pour l'humanité. Ce n'est pas uniquement le miracle qu'on raconte comme une histoire, mais c'est une grande leçon de confiance en Allah, que ô musulman, quelle que soit la situation que tu vas vivre dans ta vie, même si tu vois que tout se retourne contre toi et qu'il ne semble y avoir aucune ouverture, sache que, premièrement, si tu gardes confiance en Allah, tu respectes ses ordres, tu t'éloignes des interdits, tu suis les recommandations d'Allah Azza wa Jal, et à aucun moment tu faiblis dans ta confiance en lui, assurément, tu trouveras l'aide d'Allah Azza wa Jal, comme Moussa alayhi salam a obtenu l'aide d'Allah et comme le prophète sallallahu alayhi wa salam a obtenu l'aide d'Allah Azza wa Jal. On était arrivé à cette étape de l'histoire de Moussa alayhi salam, donc au verset 19, lorsqu'Allah Rabbul Izzah demande à Moussa donc d'aller voir Pharaon. Et ces deux phrases, lorsque Moussa alayhi salam, versets 18 et 19, puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. De le verset 18, ça veut dire que c'est là un grand message d'espoir pour n'importe quelle personne qui a pu commettre des péchés dans sa vie. Parce que Allah Azza wa Jal envoie Moussa inviter Pharaon vers la religion du haqq, vers la vérité. C'est-à-dire que malgré l'étendue de ses erreurs, de ses péchés, et il n'y a pas plus grave péché que ce que Pharaon avait fait, malgré ça, la porte du Tawba restait ouverte. Il avait la possibilité de retourner vers Allah Azza wa Jal. Et en retournant vers Allah Azza wa Jal, l'intégralité de ses péchés aurait été pardonnée par Allah. En parenthèse, les savants disent que voyez à travers cette prêche, le fait qu'Allah Azza wa Jal ouvre la porte ou donne une ouverture à Pharaon, c'est une leçon d'espoir pour n'importe quelle personne qui a sombré pendant longtemps, même si des années, dans le haram de le péché. Jamais les portes du Tawba ne se referment. Et lorsqu'une personne s'est éloignée, bien au contraire, lorsqu'une personne s'est éloignée d'Allah Azza wa Jal, et qu'à un moment de sa vie, avec ikhlas, avec sincérité, avec conviction, la personne se rend compte de ses erreurs et décide de faire marche arrière, de demander tawba et d'implorer la clémence d'Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal accepte son repentir et plus encore, Allah Azza wa Jal est content, Allah Rabbul Izzah est extrêmement content de voir un serviteur égaré qui revient vers lui. Et vous vous rappelez du hadith qu'on avait cité une fois, hadith très connu, l'homme qui perd sa monture dans le désert et qui n'a plus de moyens de transport, qui n'a plus sa nourriture, sa boisson, tout était sur ce chameau hein, qui s'est enfui alors qu'il est dans le désert. Et cette personne perd tout espoir. Il s'assoit sous un arbre et il attend la mort. Soit il va mourir de faim, soit de soif, soit dévoré par des bêtes sauvages, soit déshydraté. Il sait qu'il ne sert à rien de courir, de marcher, il est en plein désert et sa vie se résumait à cette monture qui lui permettait d'aller d'un point à l'autre. Il avait l'eau, il avait à manger. Et tout d'un coup, il voit, après longtemps, il voit cet animal qui revient vers lui. Maintenant, imaginez la joie qui habite le cœur de cette personne. C'est une seconde vie, presque, qui se présente à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie la réaction de cette personne vraiment pour montrer comment la personne est satisfaite, elle est contente. Il dit que la personne remercie Allah. Il dit, oh Allah, je te remercie, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il inverse les termes. Ça c'est parce que la personne est tellement joyeuse, tellement contente, qu'il ne maîtrise même plus ses phrases. Pour montrer comment cet homme est heureux, content, enthousiasme. Il dit que sachez que votre Seigneur est encore plus content lorsque quelqu'un qui s'est éloigné de lui revient vers lui. Notre dîn, l'islam, c'est la religion de l'espoir. C'est la religion où justement le désespoir est interdit. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ben il aura commis un grave péché. Et Allah Azza wa Jal agit avec ses serviteurs en fonction de la connaissance et de l'idée que nous nous faisons de notre Seigneur. Hadith Qudsi. C'est-à-dire que si un croyant a la conviction qu'Allah est clément, miséricordieux, il va me pardonner tant que je suis sincère, mais il trouvera la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se dit que non, Allah ne pardonne pas, Allah ne peut pas avoir pitié de moi, Allah n'aura pas pitié de lui. Et celui qui, maintenant par personne interposée, celui qui ose porter un jugement sur son prochain en décrétant que lui c'est bien, lui c'est quelqu'un de bien, lui c'est bien, lui c'est mauvais, lui c'est un pécheur endurci, il n'y a plus d'espoir pour lui, mais cette personne-là qui ose porter ce jugement, il a eu un sous-ovan-billah, une mauvaise pensée sur son Seigneur. Et ça c'est un péché grave. Dans un hadith, le Prophète avait cité le cas d'une personne pieuse, et en face il y avait quelqu'un, un pécheur endurci. Cet homme a dit Amma anta, toi, jamais Allah ne te pardonnera. Et Allah était tellement mécontent de cet homme pieux qui a osé douter de sa clémence qu'Allah a puni cet homme et Allah a pardonné aux pécheurs endurcis. Donc l'histoire de Moussa alayhi salam, mes chers frères, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte aux enfants avant de dormir, ce n'est pas juste une fable, excusez-moi, ou ce ne sont pas des faits qui appartiennent au passé. Si Allah Azza wa Jal les cite dans le Coran, c'est pour que cela reste une source d'inspiration pour chaque croyant. Et c'est ce qui fait la beauté de notre livre, et c'est ce qui fait la perfection de notre dîn. Nous croyons à l'ensemble des prophètes. Chaque prophète est une source d'inspiration différente pour nous, mais qui nous mène vers le même natija, le même résultat. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, qu'en finalité, Allah accorde son aide à ceux qui font preuve de taqwa, de piété. Donc, on est arrivé à ce stade où Moussa a.s. propose à Pharaon s'il veut revenir vers le droit chemin. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Et les savants, les mufassirin, rahimahumullah, expliquent que éprouver la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est essentiel pour le croyant. Aucun cheminement spirituel n'est possible vers Allah uniquement par des actions, par un rituel qu'on va reproduire au quotidien. Sans le moindre doute, l'accomplissement des prières est un pilier de l'islam. Sans le moindre doute, l'accomplissement, l'observation des 30 ou 29 jeûnes du Ramadan est un pilier de l'islam. Le monde, sans le moindre doute, le hajj, ainsi de suite. Mais en plus d'accomplir ces actions doivent graviter autour d'une croyance ancrée dans nos cœurs, c'est khashyatullah. C'est pour ça que Moussa alayhi salam sollicite Pharaon, l'invite à éprouver la crainte d'Allah. Et la définition de khashyatullah, c'est quoi la crainte d'Allah? On avait expliqué, je crois, la dernière fois, khashya, ce n'est pas khawf. Khawf, c'est quand tu as peur. C'est uniquement la peur de quelqu'un ou de quelque chose qui peut être nuisible. Al-khashya, c'est avoir une crainte qui est annexée au ilm, à la connaissance. Et avec ça, les savants disent, pour éprouver réellement khashyatullah, pour ressentir vraiment la crainte d'Allah dans nos cœurs, ben il faut avoir la connaissance sur notre Seigneur. Connaître qui est Allah. Et la meilleure façon de connaître Allah Azza wa Jal, c'est en étudiant son livre, c'est en étudiant également les asma wa sifat, les qualités d'Allah Azza wa Jal. De cette façon, on va connaître vraiment qui est notre Rabb, qui est notre Seigneur. Et à partir du moment où le croyant connaît vraiment les qualités de son Seigneur, c'est là que la crainte d'Allah va se développer dans son cœur, va s'installer, et cette crainte d'Allah sera pour lui une source de motivation pour accomplir des bonnes actions. Ce sera la source, la force nécessaire pour lui pour faire sobre, pour être patient face au péché et pour être patient également dans les moments de difficulté. Verset suivant. Fa'arahu al-ayat al-kubra, verset 20. Il lui fit voir le très grand miracle. Fa'kazzaba wa 'asa. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Thumma adbara yas'a. فَحَشَرَنَا فَنَادَا فَقَالْ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens et leur fit une proclamation. On parle de Pharaon. Et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire, de l'au-delà et de celle d'ici-bas. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Il y a la certe, il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Alors donc, lorsque Moussa alayhi salam prêche à Pharaon, Allah Rabbul Izza lui avait accordé فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, un signe évident, le signe, le ayah, le mu'ajiza, le miracle qu'Allah Azza wa Jal avait accordé à Moussa alayhi salam, c'était le bâton. On avait parlé du bâton la dernière fois. Et pour que Moussa alayhi salam place maintenant sa confiance en Allah, Allah va l'éprouver par ce bâton, en lui posant d'abord la question, « وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ?» Que Moussa alayhi salam reconnaisse ce qu'il a entre ses mains. Si je vous demande, « Qu'est-ce que tu as entre les mains ?» C'est un stylo. Avec ce stylo, je peux écrire, je peux dessiner, je peux tourner des pages, etc. ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on finit par décrire les spécificités, les propriétés de l'objet. Notre conviction sur l'objet, c'est tel point. Ça me sert à telle chose, telle chose, telle chose. Voici donc, on pourrait dire, le potentiel de cet objet, ça ne dépasse pas ce qu'on a cité. Le Afa, Moussa alayhi salam, a expliqué, je m'appuie sur ce bâton pour marcher, ça l'aide également pour les moutons, ou alors pour tendre les branches, pour les arbres fruitiers, ainsi de suite. Allah Rabbul Izzah va lui montrer que cette conviction qui a été forgée sur quelque chose qui est inanimé, Allah est capable d'en faire quelque chose, une créature vivante, effrayante, qui peut donner la mort. Alors qu'à la base, ce bâton, c'est quelque chose d'inerte et quelque chose de connu. Il n'y a pas à écrire un livre sur le bâton. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Tout le monde sait à quoi ça sert. Mais la conviction de l'homme sur quelque chose de si simple, ben, elle est remise en cause quand Allah Azza wa Jal décide que cette conviction ne se limite plus à ce que nos sens perçoivent. Grande leçon de yaqin, de conviction, et cette leçon-là, nous devons être capables de l'interposer dans toutes les situations de la vie. Je conçois les choses d'une certaine façon. J'ai la conviction que telle chose, ça sert à telle chose. J'ai une idée figée sur des asbabs, sur des intermédiaires. On doit être capable d'aller au-delà de ce qu'on a compris et de placer sa confiance en Allah, que Inna Allah ala kulli shay'in. Allah est capable de tout. Ce bâton que Moussa alayhi salam connaissait en tant que berger, Moussa alayhi salam va voir qu'il se transforme. Allah donne la vie à partir du rien. Et ça, c'est une qualité d'Allah. Celui qui donne la vie à partir du néant. Yukhrijul hayya min al mayyit. À partir de ce qui est mort, de ce qui est inerte, Allah Rabbul Izza peut donner la vie. Chose que personne ne peut faire. Même les pseudo-scientifiques qui prétendent parfois cloner brebis ou je ne sais pas quoi, ben ils vont démarrer à partir d'êtres vivants. Mais comme on l'avait maintes et maintes fois cité l'année dernière, si on dit à un scientifique, à un professeur, je te donne une paire de gants, une table de travail, crée. Il dit quoi ? Donne la vie à ce que tu veux. Un chameau, un canard, un cafard ou une carotte, fais vite, je te donne 10 minutes. Gants, parce que les microbes, table de travail, et donne la vie. Personne ne peut le faire. Réunissez les meilleurs chercheurs, les plus grands professeurs, personne ne peut le faire. Allah Rabbul Izza donne la vie à partir du néant, à partir de rien, à partir donc de ce bâton inerte. Et donc, ça c'était Al-Ayatul Kubra. Et lorsque Pharaon avait vu ce serpent, il était impressionné. Et Ibn Kathir, je ne sais pas si vous avez Ibn Kathir chez vous en français, c'est un résumé, hein, ce n'est pas l'intégralité malheureusement, c'est un résumé, mais il explique bien le serpent, comment il était gigantesque et qu'il avalait des pierres, il avalait même des arbres, je ne sais pas si c'est des arbres, des arbustes, mais que Moussa entendait le bruit de la pierre dans l'estomac de ce serpent. Et on parlait également des dents du serpent. C'était vraiment une créature effrayante. Ça, c'était le grand signe qu'Allah avait accordé à Moussa alayhi salam. Et le deuxième grand signe, c'était sa main. Lorsqu'il le mettait sous son bras, c'était son aisselle, il le tirait, la main était blanche, brillante, sans que cela soit une maladie de peau. Donc, c'était là deux miracles de la part d'Allah Azza wa Jalla. On peut se dire qu'avec de tels miracles, comment est-ce qu'une personne qui réfléchit, qui analyse les situations et prend les décisions en fonction de son analyse. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intelligent, comment est-ce qu'il peut ne pas accepter le haqq, la vérité? Et les anbiya alayhimu salatu wassalam avaient tous reçu des miracles de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais chaque miracle, c'est une règle connue de tout le monde, chaque miracle était en rapport avec la société, avec la connaissance ou alors ce qui faisait l'admiration des gens. À l'époque de Moussa alayhi salam, la grande spécialité, on pourrait dire malheureusement, c'était as-sihr, la sorcellerie. Et donc ce que Moussa alayhi salam va porter va défier les champions de sihr, les champions de la sorcellerie. À tel point que lorsque les sorciers ont vu le serpent, alors qu'eux, ils avaient commencé à jeter leurs bâtons, leurs cordes qui avaient rempli la vallée, c'était un spectacle impressionnant. Mais lorsqu'ils ont vu le miracle de Moussa alayhi salam, ils se sont immédiatement prosternés. Ils n'ont pas engagé un dialogue. Il faut qu'on discute là, parce que là, franchement, c'est une thèse qu'on n'avait pas vue. C'est quelle école? Non, du tout. Fa ulqiya as-saharatu. Il y a combien de hafiz dans la salle là? Deux. Allez, travaillons sur tashabihat, l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est plus compliqué. Fa ulqiya as-saharatu sajidin sujada. C'est une colle, hein? Sujada. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ils ne se sont pas posé de questions. Et les personnes qui sont sincères, lorsqu'ils voient les signes d'Allah Azza wa Jal, immédiatement ils s'en saisissent, ils font preuve de tawadhu', d'humilité, et ils se soumettent à Allah. Ces Sahara, selon Ibn Kathir, ils avaient été forcés, c'est-à-dire, ce n'était pas leur choix. C'était des enfants qui avaient été mis dans une école par Pharaon, et ils avaient appris, donc c'était presque comme un orphelinat ou autre chose, ils avaient appris le sihr. Et dans cet inversé, lorsqu'il reprochait à Pharaon, il disait que la sorcellerie que tu nous avais imposée. D'accord ? Donc, ces sorciers, ils ont fait preuve d'humilité, ils ont vu le haqq. Tout comme Pharaon a vu le haqq. Pharaon était beaucoup plus intelligent que les sorciers. Dès le départ, il avait vu la vérité. Mais dans son cœur, il y avait al-fakhr, al-takabbur, al-isti'la, la fierté, la vanité, l'orgueil. C'est exactement ce qui a empêché Abu Jahl et Abu Lahab d'accepter l'islam. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Ce n'est pas pour rien si le hadith Qudsi, Allah Rabbul Izza, cite l'orgueil et la fierté comme étant des choses, des qualités propres à Allah Azza wa Jal, et que dans d'autres hadiths, il est stipulé que personne, aucun croyant, ne peut ressentir, n'a le droit d'éprouver 1% d'orgueil ou de fierté. C'est un péché. C'est un péché extrêmement grave. Et c'est l'orgueil, la fierté qui fait que Pharaon n'a pas accepté le haqq, alors que les Sahara, eux, ils l'ont accepté et ils se sont prosternés. Donc, avec ces signes, Moussa alayhi salam va voir Pharaon. Bon, on est un peu anticipé avec l'histoire des Sahara, mais quelle fut la réaction de Pharaon juste avant, parce qu'on avait ouvert une petite parenthèse concernant les miracles en relation avec les prophètes. On va juste donner un autre exemple. À l'époque de Isa alayhi salam, quelle était la science la plus répandue et la plus admirée? At-tibb, la médecine. Il y avait de grands médecins. Et certains, enfin, je me souviens, j'avais un professeur à l'école, mais ça c'était un prof de français, pourquoi il parle de science? Il disait que à cette époque, ils avaient plus de compétences qu'à notre époque pour diagnostiquer les maladies. Peut-être qu'ils avaient des méthodes pour soigner, non, pas forcément, mais ils savaient diagnostiquer avec une précision. Excusez-moi, ça a dépassé Dr. House, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que ça, c'est moi qui rajoute. Et donc, à l'époque de Isa alayhi salam, Allah Rabbul Izza va accorder des mu'ajizas, des miracles à Isa alayhi salam. Il est capable de ressusciter les morts, de parler avec eux. Il est capable, en passant sa main sur une personne qui est atteinte de cécité, cette personne retrouve la vue. Chose qui médicalement est impossible. Vous pouvez aller voir les plus grands spécialistes, les plus grands ophtalmos au monde. Si quelqu'un, par exemple quelqu'un qui perd la vue à cause d'un accident ou, je sais pas, excès de lumière ou autre chose, peut-être. Mais quelqu'un qui est né aveugle, cette personne ne peut pas retrouver la vue, à moins de faire, je ne sais pas comment appeler ça, une greffe, je ne sais pas si ça existe, ça se fait, mais retrouver la vue, c'est impossible. De même que les personnes qui étaient atteintes de lèpre, baras, Isa alayhi salam passait sa main sur la personne, et la personne retrouvait la santé. C'était là des miracles qui défiaient la science à son époque et qui continuent à défier la science à notre époque. Donc, chaque prophète avait reçu le miracle en rapport avec le contexte, la société où ils évoluaient. Quel était le miracle principal de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Notre prophète a accompli beaucoup de miracles. La lune qui s'est fendue en deux, la baraka, la bénédiction, profusion de nourriture et de lait à partir d'un bol ou d'un petit récipient où des centaines de personnes peuvent manger, ainsi de suite. Le prophète a fait beaucoup de miracles. Mais le prophète salam, n'a jamais voulu faire de miracles, on pourrait dire, fracassants. Parce qu'il savait que quand Allah Rabbul Izzah accordait à un prophète un grand miracle qui devait être un test pour l'ensemble de son peuple, c'était quitte ou double. S'ils croyaient, ils croyaient. S'ils ne croyaient pas, ils étaient immédiatement punis. Et le prophète sallam, il était rahmatan lil alamin, rempli d'amour pour sa umma, il ne voulait pas voir son peuple puni de cette façon. Et donc, le grand miracle de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le plus grand miracle de l'histoire des Anbiya alayhi wa sallatu wa sallam, parce que c'est le seul miracle qui perdure dans le temps, c'est le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, parce que à l'époque de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science la plus répandue et la plus admirée, c'était la langue arabe. L'éloquence en langue arabe. Et notre prophète alayhi sallatu wa sallam va apporter un discours qui dépasse de loin le niveau linguistique de n'importe quelle personne à cette époque. Parce qu'il faut savoir que les Arabes, à cette époque, ils maîtrisaient la langue beaucoup mieux, ils maîtrisaient beaucoup plus la langue arabe que ceux qui sont venus après eux, et encore moins les Arabes de notre époque. Donc, et à tel point, ils donnaient de l'importance aux personnes qui étaient éloquentes, qu'il y avait des concours de poésie, des concours de shi'r, et celui qui avait écrit le plus beau poème, on brodait en fil d'or son poème sur la kiswa, sur la toile de la Kaaba. À tel point, pour les Arabes, al-fasaha, l'éloquence, c'était un peuple instruit. L'éloquence, c'était quelque chose d'important. Et pour Salam, le style du Coran dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. D'autant plus que les paroles que le prophète alayhi salatu wa sallam va réciter proviennent d'un ummi, d'une personne qui ne savait ni lire ni écrire. Et les personnes à qui le discours a été adressé, ils connaissaient parfaitement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait grandi avec eux. Il avait grandi à Mecca. C'est pas quelqu'un qui venait de l'étranger ou d'un autre endroit, non. Il savait qui est-ce qui avait la possibilité d'apprendre. C'était pas quelque chose de courant. Il y avait peu de gens qui pouvaient lire et écrire. Il savait qui c'est qui savait lire, qui savait écrire. Et tout le monde savait que lui n'a jamais eu l'occasion, étant orphelin, en plus, n'a jamais eu l'occasion d'apprendre l'écriture ni la lecture. Et donc, tout le monde savait qu'il était ummi. Et donc, le discours qu'il apportait, ça dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Et parmi ce caractère miraculeux du Coran, donc le niveau, l'éloquence, également les miracles cités dans le Coran, on avait appelé ça les i'jaz ilmi, on avait trouvé un terme l'autre fois, on pourrait dire les versets miraculeux, hein, lorsqu'on parle des cieux, de la terre, de la création de l'homme, le fœtus, des points qu'on avait déjà évoqués dans d'autres sourates, ce sont des choses que personne ne pouvait imaginer à cette époque, des faits scientifiques qui ont été découverts récemment, et certains ne sont pas encore découverts. Tout ça, ça fait partie du caractère miraculeux du Coran, le fait qu'il soit protégé, depuis qu'il a été révélé, il n'y a pas eu un haraka, une lettre changée, tout ça, ça prouve le caractère miraculeux, le i'jaz, le côté mu'jiza du Coran, et les faits du Coran sur les cœurs. L'effet du Coran sur les cœurs, le fait que le Coran est shifa, est une source de santé pour les personnes atteintes de maux physiques, psychologiques, même paranormaux. Le Coran est un shifa pour toutes ces personnes. Tout ça, ça fait partie du caractère miraculeux du Coran. Et ce caractère miraculeux, il est présent depuis la sourate Iqra a été révélée, depuis la révélation de Iqra, et il perdure jusqu'au Qiyam, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de refaire le Coran, de reprendre le Coran. Ça, ce sera à la fin des temps, après le départ de Isa, de Jésus, qui reviendra à la fin des temps, après le départ de Isa alayhi salam. Et Allah avait mis au défi les ins et les djinns d'essayer d'imiter le style du Coran, un surah, un chapitre, ou même 10 versets, ou même un seul verset, mais personne n'était capable, parce que c'est là le kalamullah, la parole d'Allah, azza wa jal. Donc on revient à l'histoire. Moussa alayhi salam expose ses miracles à Pharaon, mais fakadhaba wa asa, qu'on a dit qu'il a refusé de croire, Il le qualifia de mensonge et désobéit. Et comment est-ce qu'il peut qualifier ces miracles de mensonge? C'est parce qu'il était fier et orgueilleux. Il tourna le dos, s'en alla précipitamment. On va essayer d'aller un peu plus vite. Rassembla les gens. Et regardez le niveau de Udwan, son niveau d'ingratitude et sa persévérance dans le batul, de la fausseté. C'est que non seulement il n'accepte pas, il ne veut pas croire au miracle et à la prophétie de Moussa alayhi salam, mais il va profiter de cette occasion pour rassembler sa cour, pour rassembler la population et proclamer encore une fois haut et fort, faqala ana rabbukumul a'la. Il rassembla les gens et leur fit une proclamation et dit: c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Et à tel point Pharaon se laissait tromper par sa fierté, son orgueil, que les signes qu'on avait qualifiés de Rububiya, la création d'Allah, théoriquement, une personne doit trouver la guider en méditant sur la perfection de la création d'Allah. Mais Pharaon, au lieu de voir les signes de la création d'Allah comme étant une source de guider, il se laissait tromper tout seul en analysant ces signes. Il avait dit allez salimul kumisru hadi l'anhar tajri min tahti, quand il voit le Nil couler, il pense que le Nil coule pour lui, que le Nil l'appartient, que le royaume d'Égypte lui a été donné. C'est-à-dire il ne voyait pas la grandeur d'Allah à travers la création. C'est-à-dire il a fait un cheminement totalement contraire. Ce qui arrive vers le point le plus contradictoire de l'ensemble des ins, des êtres humains, c'est affirmer que je suis le Seigneur. C'est-à-dire, dès le départ, le cheminement correct, c'est qu'une personne arrive à méditer sur la grandeur d'Allah à travers sa création, et à partir de là, déduire que celui qui a tout créé, lui seul mérite d'être adoré. Tawhid uluhiyya. Mais lui, dès le départ, en voyant le Nil, qui est un fleuve magnifique, si quelqu'un a eu l'occasion d'aller en Égypte, j'ai pas eu l'occasion, il se dit, finit par se persuader que ce Nil, il m'appartient et qu'il coule sous mes pieds pour moi. Donc il s'était trompé dès le départ dans l'analyse de la création et du coup il arrive à cette conclusion que lui seul, na'oud billah, mérite d'être adoré. Et qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izza lui a réservé? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Dans des cas de désobéissance, il est possible qu'Allah punisse sa personne dans l'au-delà uniquement. Mais dans certains cas de désobéissance, Allah peut punir une personne dans ce monde aussi et ensuite dans l'au-delà. Et lorsque la punition intervient dans ce monde, c'est également pour que cela soit ayah, d'où le verset inna fi dhalika la ibra liman yakhsha, pour que cela soit un signe pour ceux qui éprouvent la crainte d'Allah dans leur cœur, afin que l'ensemble de l'humanité, les populations et les ummas qui vont venir après, ils réfléchissent et ils voient comment est-ce qu'un homme qui était un roi, un tyran à la tête d'une armée d'un million de combattants, le roi d'Égypte, un des plus beaux pays à cette époque, une des personnes les plus influentes, les plus respectées, avec une armée, mais également des centaines de sorciers à son service, comment est-ce qu'une personne peut chuter avec un million de combattants et périr, noyé en une fraction de seconde et disparaître complètement de l'histoire? Ça, c'est la qudra d'Allah. C'est le pouvoir d'Allah, c'est également la punition d'Allah Azzawajal contre ceux qui osent mettre leur Seigneur au défi. Ceux qui refusent les signes d'Allah Azzawajal. Et certains savants, ils vont vers cette opinion également, qui rejoint un verset, que le corps de Pharaon, vous savez que dans d'autres versets, Falyaouma, je cherche le verset, Falyaouma ou Falyaouma, Nunadjika. Al-yawma barakallahu fik nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. C'est-à-dire que le corps de Pharaon a été préservé en ce sens afin que ce soit un signe. Effectivement, vous connaissez l'histoire du docteur, quel docteur? Bukay, qui s'était converti à l'islam, c'est un français, docteur Bukay, et pardon? Maurice Bukay. Ah, on parle de lui, Maurice. Docteur Maurice Bucaille, et qui, subhanallah, en étudiant l'histoire d'Égypte, il a fait une comparaison avec les versets du Coran, et subhanallah, il a vu le haqq, il a vu la vérité, et il s'est converti à l'islam. Lors d'un congrès, il a affirmé haut et fort son appartenance à l'islam, subhanallah. On n'a pas dit que c'était un terroriste, hein. Dommage, ils avaient oublié, d'accord. Et ou alors il s'est fait embrigader, ou il est en train de se radicaliser. Non, on ne lui a pas dit, parce que c'était un grand médecin. Et subhanallah, le corps de Pharaon reste visible jusqu'à maintenant, et c'est là un signe pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc la punition d'Allah Azza wa Jal était dans ce dunya, et la punition d'Allah le jour de Qiyama sera encore plus terrible. Et avant de passer au verset suivant, le verset de conclusion de ce soir, parce qu'on a dit on fait 35 minutes inshallah, inna fi dhalika la ibrata liman yakhsha, avant de voir comment c'est un signe pour tout le monde, quelle est la punition de Pharaon dans ce dunya, on vient l'expliquer. D'accord. On a expliqué également, on n'a pas expliqué, on va le dire, que tout ce qu'ils avaient eu, tout ce qu'ils possédaient comme argent, l'or, les boustins, les jardins, tout ça, ils ont dû le laisser. Kam taraku min jannatin wa uyun zuru'in wa maqamin karim. Tout ce qu'ils possédaient, ils l'ont laissé. Et c'est là un signe, c'est là un rappel pour n'importe quel croyant. Autant je possède. Eux, ils avaient des jardins, ils avaient des ruisseaux qui coulaient. Nous, nos signes de richesse à nous, ça peut être autre chose. Ça peut être un bâtiment, un magasin, une voiture, un terrain, ou je ne sais pas quoi. Peu importe les signes de richesse. Personne n'aura une richesse semblable à Pharaon, ça c'est clair. Et parmi le peuple de Pharaon, parmi ceux qui suivaient Pharaon, il y avait Qarun, qui était l'homme le plus riche de l'univers, certainement, de la race humaine. Tout ce qu'il possédait, ils ont dû le laisser lorsqu'ils sont partis. Comme Tarakou, comment, combien, combien ont-ils laissé de jardins, de ruisseaux? C'est là un grand signe pour toutes ces personnes qui courent derrière les richesses. N'oubliez pas, autant vous allez cumuler, vous allez garder, vous allez thésauriser, n'oubliez pas que lorsque l'ange de la mort reprend l'âme, vous allez laisser l'intégralité de ce que vous avez gagné. Et ce sera là l'héritage pour ceux qui vont venir après vous. Et cet héritage ne vous sera d'aucune utilité dans le Akhira, dans le monde éternel. Donc l'homme intelligent, l'homme qui réfléchit, il se dit que j'ai une vie éternelle dans le delà. Pourquoi est-ce que je consacre mes années où je vais construire normalement cette éternité? Comment, au nom de quoi je vais consacrer ce temps à meubler une vie qui est éphémère, et lorsque je quitte cette vie, je laisse tout ce que j'ai pu emmagasiner. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas travailler, il n'y a pas besoin de rechercher sa subsistance. Non, le juste milieu, c'est que l'homme se doit de s'acquitter de ses devoirs par rapport à son rôle de mari, par rapport à nourriture, ainsi de suite, sans le moindre doute, mais que le cœur ne soit jamais attaché au bien. Que le cœur ne soit jamais attaché au bien de ce monde, sachant que lorsqu'on meurt, on va laisser tout ce qu'on a pu emmagasiner, comme Pharaon, comme Qarun, et comme ceux avant eux et après eux. Donc ça, c'était sa punition dans ce dunya. Sa punition de la tombe, là, ça nous ramène vers un autre verset. « An-naru yu'aradouna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya ». C'est-à-dire, depuis le moment où Pharaon a été puni par Allah, au moment où on parle encore, jour après jour, an-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya, en permanence, Pharaon subit les châtiments, il goûte au feu du Jahannam dans le monde de Barzakh. Je veux dire dans la tombe, mais il n'y a pas vraiment de tombe parce qu'il est ailleurs. Mais dans ce monde intermédiaire, il subit les châtiments du feu, comme le prouve ce verset, et cela va perdurer jusqu'au Qiyam. Imagine, ça fait combien de subhanallah, ça fait plus de 14 ou 15 siècles, et Moussa, ça remonte à combien de siècles encore? Depuis ce moment, il subit les châtiments du feu, du feu de l'enfer, et cela va perdurer jusqu'au Qiyam. Ça, c'est le deuxième degré de azab, c'est dans la tombe. Et le jour de Qiyam, dans un verset, il dit voyons mataqou Moussa adkhilou ala fir'auna ashadda al'azab. Quand le Qiyam aura lieu, les premières personnes à être dirigées vers l'enfer, ce sera Pharaon et ses proches et ceux qui étaient avec eux. Alors qu'il avait, subhanallah, tout ce qu'il possédait sur la terre, comment ils étaient respectés sur ce dunya, le jour de Qiyama, le plus grand des honneurs, ce sera pour eux. Avant que tout commence, le premier i'lan, la première annonce, c'est que Pharaon, ses proches et ceux qui étaient avec eux, qu'ils se dirigent, qu'on les envoie tout de suite vers Ashad al-Adab, vers le pire des châtiments de l'enfer. Une leçon également pour nous, on ne doit pas analyser, on ne doit pas projeter la situation de ce dunya vers l'au-delà. Se dire que celui qui était respecté, qui avait tout, ben, il va avoir le bien de l'au-delà également. Là, wallah. Ou se dire de l'autre sens que une personne qui n'a rien du tout, ben, c'est un miskin. Bil'aks, bien au contraire. Cette personne qui avait tout ce qu'un être humain peut rêver de posséder en termes de richesse et de pouvoir, le jour de Qiyama, ce sera le plus humilié. Le premier à entrer dans le Jahannam avec l'ensemble des personnes qui l'avaient suivi. Et autre leçon également, les savants disent, réfléchissez, analysez qui vous suivez dans ce dunya. Tous ceux qui ont suivi Pharaon auront et connaîtront le même sort que Pharaon. Ceux qui suivaient Moussa alayhi salam parmi les Banu Israël qui sont restés dans le droit chemin, ils seront avec Moussa alayhi salam. Et ceux qui faisaient partie de la famille de Pharaon, mais qui se sont détachés de lui et qui ont suivi le haq, ben ils seront avec Moussa alayhi salam, ce qui était le cas de cette personne qui faisait partie des proches de Pharaon, wa qala rajulun mu'minun min ali Pharaon, et qui cachait sa foi, mais qui faisait partie des proches. Selon certains commentateurs, ce serait le fils même de Pharaon qui avait mis en garde Moussa, attention, ils vont venir te chercher, et qui avait essayé de convaincre Pharaon de suivre Moussa et de ne pas rester dans l'ignorance. Donc voilà, quand Allah Rabbul Izzah parle de nakal al-akhirati wal-oula, la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas, on a vu comment est-ce qu'il a été puni par Allah dans ce dunya. Quelle est sa punition permanente au moment où on parle dans le monde intermédiaire de Barzakh, et quelle sera sa punition le jour de Qiyama? La grande leçon à retenir, c'est inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Et ça, c'est un principe. Celui qui a la crainte d'Allah, celui qui veut se rapprocher d'Allah, celui qui commence à bouger, à faire un pas, à rechercher la connaissance, à rechercher la vérité, il trouvera la lumière du Coran. Parce que le Coran touche les cœurs sincères, touche les cœurs qui commencent, ou qui ont déjà la taqwa bien sûr, ou qui sont remplis de sincérité, de désir de trouver le haqq. Alors qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a des Quraysh qui entendaient le Coran. Ils savaient que c'était quelque chose de miraculeux, comme on a dit tout à l'heure, mais ils n'ont jamais voulu dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » parce que le cœur n'était pas sincère. Ils ne voulaient pas de la vérité. Alors que les personnes qui recherchent la vérité, qui sont sincères, en écoutant, en entendant le Coran, les versets ont un effet direct sur le cœur. Ce qui nous amène vers une conclusion, les savants disent, si on veut travailler notre relation avec le Coran, il faut commencer par travailler notre relation avec Allah par le biais de bonnes œuvres et par l'éloignement du haram. Quand une personne commence à travailler sa foi, quand une personne fait un effort dans les bonnes actions et l'éloignement des péchés, il est en train de faire un pas vers Allah. Et quand on fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers nous. Et de cette façon, la personne, il commence un travail. Il y a l'ikhlas parce qu'il a envie de le faire, et il y a le amal, l'effort. Donc, il est sur la bonne voie. Quand on arrive à joindre la sincérité et l'accomplissement des bonnes actions, on a fait le premier pas, le reste, c'est Allah qui va faire. Allah va t'accepter, va te permettre de te rapprocher de lui, et du coup, la personne qui a cette motivation, quand quelqu'un ressent la motivation pour la religion, il commence à s'intéresser, il commence à pratiquer, n'allez pas chercher ailleurs avec plein de gens, des thèses sur internet, Skype avec des cheikhs qui n'existent pas. Concentrez-vous sur le Coran, sur le tafsir, sur la beauté du Coran, parce que lorsqu'on est sincère et qu'on a commencé à faire un pas vers Allah et qu'on éprouve la crainte d'Allah dans le cœur, orientez-vous directement vers la source et on trouvera l'inspiration, parce que le Coran touche les cœurs qui sont sincères, qui sont purs, les cœurs qui ont le talab, qui ont la motivation, qui ont envie de se rapprocher d'Allah. Et de même, en conclusion, c'est là, inna fi dhalika la'ibra, un signe, liman yakhsha, pour ceux qui craignent, ceux qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur. Alors que ceux, comprenez par mafhoum khalafa, par compréhension inversée, celui qui n'a pas la crainte d'Allah, cette histoire ne lui fera strictement rien. Et là, il y a une conclusion un petit peu sévère d'un savant qui dit que, musulman, ô toi qui as entendu et qui as lu cette histoire, qui a compris depuis le début, situation initiale et péripéties jusqu'à la situation finale, si après avoir entendu et compris l'histoire de Moussa alayhi salam, Il n'y a rien qui se passe de ton cœur spirituel. Sur le plan spirituel, tu n'éprouves pas la crainte d'Allah, tu ne vois pas ton cœur se renforcer dans sa conviction, dans sa confiance en Allah. C'est peut-être que tu fais partie des gens qui n'ont pas khashyatullah de le cœur. Parce que celui qui lit cette histoire ou d'autres histoires du Coran et qui en ressort avec strictement rien, aucune avancée spirituelle, c'est que le cœur n'est pas prêt à entendre ce genre d'histoire. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, un travail de tazkiya, de purification intérieure, l'abandon des péchés, enlever l'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, la fierté, et travailler ça par le biais du saum, par exemple, en faisant le maximum de jeûne, en faisant la prière de la nuit, en donnant l'aumône, en faisant des efforts vers Allah, des pas vers Allah, pour qu'Allah ensuite nous accepte et nous permet. Il faut enclencher la machine. Lorsqu'on enclenche la machine spirituelle, là on peut vraiment, c'est comme si que on bouge, on est en train de tourner un moteur à traction, et là tous les systèmes vont commencer à s'allumer, on va voir la lumière, on pourra s'en inspirer. Mais il y a un travail à faire en premier sur nous. Il faut faire le premier pas et ensuite Allah va nous accepter. Donc, inna fi dhalika la ibrata liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Et réflexion, c'est un point important. Le musulman doit toujours réfléchir. Le musulman, c'est pas celui qui uniquement fait des bonnes actions, qui pratique de façon traditionnelle, sans cogiter, sans réfléchir. On est toujours en train de méditer sur le moindre des choses, sur la création d'Allah. Vous voyez un oiseau qui est magnifique, vous voyez un paysage, alhamdulillah. Vous pensez à la grandeur d'Allah, comment est-ce qu'Allah a tout créé. Vous, quand on accomplit la salat, on doit réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Que veut dire Subhana Rabbi al-A'la? Que veut dire Rabbana lakal hamd? Ou alors wa lakal hamd? Que veut dire les salat al-Nabi? Et ainsi de suite. Toujours réfléchir, toujours être en réflexion, ça c'est une qualité propre aux croyants. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Il y avait d'autres leçons, mais on va pas trop s'étendre, on est à 45 minutes, on avait dit 35. Il y a pas mal de points communs, Moussa Hassan, le professeur Ali, salatu wassalam. On avait dit également, entre autres, comment est-ce que Allah Rabbul Izzah lui veut demander de parler avec respect lorsqu'il se présente à Pharaon. Une grande leçon d'humilité également pour nous. Il y a des fois où on prend les gens de haut. On pense que nous, on est des gens religieux et eux, c'est des pécheurs endurcis. Donc, quand je vais m'adresser à eux, je les prends de haut. Et toi, là, quand est-ce que tu vas revenir vers la religion? C'est l'enfer qui t'intéresse? Tu es dans les péchés, t'as pas honte? Ne déconsidère pas, n'humilie pas la personne, ne le prends pas de haut. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Personne, aucun prêcheur ne sera meilleur que Moïse, Moussa, et personne, aucun pécheur ne sera pire que Pharaon. Et comment Moussa a parlé à Pharaon, c'est une grande leçon de prêche, de sincérité, d'humilité pour chaque personne qui essaie d'inviter son prochain vers le haq, vers la vérité. Également, lorsque Moussa, on va pas s'étaler, on a dit, mais on s'étale légèrement, lorsque Moussa alayhi salam quitte le royaume d'Égypte, comment il avait peur, il était angoissé. Notre prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va quitter Mecca, il va éprouver la crainte. Les gens essayaient de le tuer ou de l'emprisonner ou ainsi de suite. Tous les plans que les Quraysh avaient fait pour mettre fin au jour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne puisse pas aller à Madina. Il fallait surtout pas qu'il quitte Makkah pour aller à Madina parce que les Mekkois savaient que là-bas, il aurait la Nusra, il aurait l'aide, il aurait les Sahaba et ils allaient devenir une véritable force. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quitte Makkah, il quitte angoissé. Et c'est là qu'il voit également que son frère, Moussa alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le Hijra, il a quitté l'Égypte pour aller vers le royaume de Madian, vers le territoire de Madian. Moussa al-Islam était, son cœur était apeuré également. Mais il a su garder confiance en Allah. Énormément de leçons à retenir de l'histoire de Moussa al-Islam. Il y a eu donc ce petit passage à travers la sourate al-Nazi'at. Peut-être que par la suite, on aura encore l'occasion. Et je vous invite à lire, Tafsir ibn Kathir, mais également l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir, qui est traduit en français. Très bonne traduction. Lisez intégralement l'histoire de Moussa alayhi salam avec les leçons. C'est vraiment des choses qui remplissent le cœur de conviction et qui reboostent la foi qu'Allah nous accepte. Inch'Allah, la prochaine fois, on verra les versets 27 à 33 qui sont des versets de Rububiyya. On invite l'homme à réfléchir sur la création d'Allah. Ensuite, la dernière partie de Wan-Nazi'at, ce sera un rappel effrayant, édifiant mais nécessaire sur la destruction de ce dunya et la résurrection et les comptes que chacun devra rendre auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous pardonne. Nous sommes tous pécheurs. Personne de cette assemblée ne peut se vanter d'être un parfait croyant. Nous avons énormément de défauts, énormément de sayyi'at, de péchés greffés de notre livret de comptes. Mais ce soir, Allah nous a acceptés pour donner un peu de temps pour son dîn. pour écouter, et je suis le premier à en profiter, pour écouter un peu le ma'na, le sens, le tafsir de sa parole, de bénéficier d'une assemblée où, à son issue, Inch'Allah, les petits péchés sont pardonnés et avec espoir que ces péchés sont pardonnés, sont transformés en bonnes actions. Où le nom de chaque personne sera cité dans les assemblées auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est là un grand honneur, c'est là un grand cadeau de la part d'Allah. Sachons nous montrer reconnaissants et nous devons avoir yaqin, conviction qu'Allah est clément, miséricordieux. Quels que soient les péchés qu'on a pu accomplir aujourd'hui, hier, la semaine dernière ou dans notre vie, Allah est capable de pardonner à partir du moment où je suis sincère. Je regrette mes fautes et je fais l'intention de ne plus les recommencer. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous permet de revenir vers lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.